Ceci est une prédication de Durst Siggens, avec pour titre « Repos et restauration ». Bonjour frères et sœurs, voulez-vous rechercher avec moi le psaume 42 ? J'en lis les trois premiers versets. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce psaume est un poème didactique, et je l'aime beaucoup, et c'est pourquoi je vais vous en expliquer certains aspects. L'auteur de ce psaume ne se trouve pas en Palestine. Il séjourne loin de Jérusalem, parce qu'il se trouve contre son gré dans un pays étranger. Dans le verset 7, on lit qu'il est en fait dans le pays au nord de son pays d'origine, et il soupire après sa patrie. Parce que l'endroit où il se trouve est un endroit de malheur. Il soupire après Jérusalem, qui est pour lui le lieu du salut, le lieu où on reçoit la guérison. Dans la Bible, le malheur vient souvent du nord. Comment l'auteur de ce psaume en est-il arrivé là? Peut-être a-t-il été déporté. En tout cas, c'est contre son gré qu'il se trouve là, et il désire ardemment le temple dans la ville de Jérusalem. Dans ma Bible, ce psaume est intitulé « Nostalgie ». En irlandais, ça se dit « Heimweh ». « Heim » signifie « maison » et « weh » signifie « douleur ». C'est donc la douleur qu'on éprouve quand on est loin de sa maison. C'est la douleur de l'exil. Pensons au fils prodigue qui éprouvait lui aussi de la nostalgie. Il se disait « Ah, si j'étais à la maison !» Ici, le psalmiste compare son âme à une biche qui soupire après les courants d'eau. En hébreu, ce sont les eaux des ruisseaux. Comprenons bien de quoi il s'agit. Dans le psaume 104, verset 10, nous lisons « Il envoie des sources pour les torrents ». Ceci signifie que là où les lits des torrents sont secs, Dieu le voit et il envoie des sources. Dieu envoie des sources pour les torrents qui coulent entre les montagnes. Les lits de ces torrents sont l'image des hommes. Nous avons reçu ces sources de Dieu sur nos lits de torrents qui étaient secs. Cela nous est arrivé. Nous avons reçu une source. Plus encore, nous sommes devenus nous-mêmes des sources. C'est Dieu qui a fait cela. Une source est l'image de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a fait de Jésus une source, parce que c'est l'Esprit qui vient de Dieu. Dieu est la source de toutes choses, et Jésus a reçu une part de cela. Si nous avons reçu cette source, nous sommes devenus nous-mêmes une source, et nous n'aurons plus jamais soif. Nous ne soupirons plus comme une biche après l'eau. Pendant la fête des tabernacles à Jérusalem, Jésus se leva et il se mit à parler à la foule des gens qui se trouvaient là et il leur dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Nous lisons ça dans Jean, chapitre 7, versets 37 et 38. Les gens de la foule disaient, celui-ci est vraiment un prophète. » Et d'autres disaient, « Il est le Christ. » Mais d'autres encore disaient, « Mais ce n'est pas possible. » Il y avait donc de la division parmi la foule. Et cela arrive chaque fois qu'on parle la parole de Dieu. Donc, notre Jésus a crié ces paroles-là à la fête des tabernacles. En principe, chaque être humain est un lit de torrent. Et Dieu a le regard tourné vers tous les êtres humains. Et ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux-là sont devenus eux-mêmes des sources d'eau vive. Celui qui a soif doit pouvoir venir à moi, à nous, à vous, pour recevoir de l'eau. Nous pouvons leur donner à boire, parce que nous vivons dans la terre promise spirituelle, dans le royaume de Dieu. La terre promise, c'est la terre de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. C'est là que Dieu habite. Dieu habite dans les hommes qui croient en lui et qui ont reçu son Esprit Saint. Cependant, il y a des gradations dans les croyants. Par exemple, certains croyants vivent encore en dehors de la terre promise. Ils n'ont pas part à l'Esprit de Dieu. Ils sont nostalgiques. Bien sûr, ils croient que Dieu existe et ils espèrent que lorsqu'ils mourront, ils iront vers son royaume. Ils ont un vague espoir, mais ils sont souvent opprimés et ils doutent facilement. Cela se voit dans les formulations d'annonces de décès. Elles parlent plus souvent d'espoir que de certitude. J'ai vu une interview avec un cardinal catholique. Le journaliste qui lui posait des questions lui demanda « Mais quel sera votre sort final ?» Et le cardinal en eut les larmes aux yeux. Il répondit « Je prie que le Seigneur aura pitié de moi. » Moi, j'ai pensé alors que Jésus l'avait déjà fait depuis longtemps, depuis Golgotha. Et j'avais envie de dire à ce cardinal, « Mais mon ami, lis dans ta Bible 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. » Ensuite, il y a des croyants qui habitent la terre promise et qui ont une meilleure vision du royaume de Dieu. Ils en parlent. Un exemple frappant est le malfaiteur qui fut crucifié à côté de Jésus et qui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « Viens avec moi. » Quelle foi avait ce brigand. Il croyait dans le pardon des péchés, dans l'effacement de la dette et dans l'entrée dans le royaume. « Tu seras avec moi, » dit Jésus. Ce malfaiteur était le premier planté dans le paradis. Il était une toute petite plante, en quelque sorte, peut-être rien qu'une mousse, mais il y était. Il y a encore la catégorie des croyants qui habitent dans la Jérusalem céleste. Qui sont-ils ? On peut le lire dans le psaume 87, verset 5. Ce sont des personnes de tous horizons, des Philistins, des habitants de Tyr, des morts, etc. Nous lisons dans ce psaume qu'ils sont nés dans Jérusalem. Ils sont donc nés de nouveau. La Jérusalem céleste est leur patrie. Paul disait, « Vous êtes des citoyens du ciel. » Dans cette ville, il y a un temple, c'est la maison de Dieu. Et qui habite ce temple? ce sont ceux qui sont baptisés d'Esprit Saint, parce que Dieu habite en eux. Dans le psaume 42, le psalmiste en exil désire ce temple. Il désire la maison de Dieu. En fait, il désire avoir ce que nous vivons, nous, ici. Les prophètes en ont parlé. Ils ont prophétisé sur nous. Comme le dit le dernier verset du psaume 23, « Mon habitation sera la maison de l'Éternel. » Pierre, il dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 et suivant, il dit donc qu'il prophétisait pour nous. Et ils ont souvent risqué leur vie pour cela. Pourquoi? Parce que ceci est dur à accepter. Qui va le croire? Et il s'agit surtout de ce qui se passe en nous de façon invisible. Le psalmiste désire paraître devant la face de Dieu. Que signifie ceci? Il y eut un temps où ceci m'effrayait. Un jour, je serai confronté à la face de Dieu. Et alors, si Dieu a alors la face dure, j'irai en enfer, ou quelque chose comme ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur de Dieu, même chez les pentecôtistes. Cet exilé désire donc paraître devant Dieu. Il désire voir le visage de son Père. Dans Nombre, chapitre 6, verset 25, Moïse dit « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. » Ainsi, nous recevons de la lumière de la face de Dieu. Ainsi, nous venons nous-mêmes à la lumière. Notre vrai visage, c'est notre visage dans la vérité, dans la lumière. Dans le psaume 42, verset 3, nous lisons « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il faut donc aller. Il faut donc faire un pas. Cela suppose qu'on marche d'un territoire vers un autre. Il faut sortir d'un lieu et entrer dans un autre. Dieu a dit « Je garderai tes sorties et tes arrivées » dans le psaume 121. Quittons donc l'Égypte et entrons dans le désert pour ensuite quitter le désert et entrer dans la terre promise. Et là, entrons dans le temple. Oserons-nous le faire? En hébreu, dans le verset 3, on parle des faces de Dieu au pluriel. Ceci est intéressant. Quand viendrai-je et verrai-je les faces de Dieu? Pourtant, notre Dieu est un, mais il a tant de couleurs ou de faces. Ici, je vois les visages de Dieu. Et ce n'est pas ce que je vois à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Le poète de ce psaume, il espère nous rencontrer, de sorte que son identité à lui vienne à la lumière. Cela se fait chaque fois que nous racontons aux autres, ceux qui sont dehors, quand nous leur racontons comment Dieu les voit. Nous pouvons alors leur dire qui ils sont vraiment. Jésus disait que nos yeux sont des lampes. Il comparaissait nos yeux à des lampes. Donc, si nous regardons les hommes avec la vision de Dieu, nous leur donnons de la lumière. Nous leur donnons la vision que Dieu a d'eux. Et ainsi, ils viendront à la lumière. Quelle belle responsabilité que nous avons là. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous lisons. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire de Dieu. Comme ceci est beau, n'est-ce pas? Et remarquez qu'il s'agit bien de nous tous. Donc, vous reflétez l'amour de Dieu et vous faites tomber cet amour sur un être humain, sur des chrétiens en exil, sur des étrangers spirituels. Criez-leur, venez vers la maison de Dieu. Est-ce que nous nous réalisons suffisamment que nous reflétons tous ces aspects du caractère de Dieu? Nous sommes des lumières, et chacun, nous sommes une partie de la parole de Dieu. Nous sommes les paroles vivantes de Dieu, car nous parlons des paroles de vie éternelle. Donc, nous pouvons dire que le psalmiste désire avoir ce que nous avons. Dans le Nouveau Testament, 3 écrivains, c'est-à-dire Jacques, Pierre et l'auteur de la lettre aux Hébreux, se sont adressés explicitement à des croyants étrangers. Ils les ont appelés ceux de la diaspora. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 22, nous lisons. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Qu'entend-on par vous vous êtes approchés? Ce sont des Hébreux qui se sont approchés de nous, qui sommes la ville du Dieu vivant. Le verset 4 du psaume 42 dit « Mes larmes sont ma nourriture ». Ce psalmiste est donc très triste et nostalgique. Dans le verset 6, il s'adresse à son âme. Elle est abattue, prosternée, car une main la tient courbée. Quelqu'un l'opprime. Et cela arrive sans qu'on demande. Pourquoi? Pas seulement parce que l'âme est en exil, mais aussi parce qu'on lui dit tout le temps « Où est ton Dieu ?» Voyez le verset 4. Et il répète dans le verset 11 « Mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps « Où est ton Dieu ?» Connaissez-vous de tels adversaires? Qui ne les connaît pas? N'étiez-vous jamais au chevet d'un malade ou en conversation avec quelqu'un de désespéré? Et n'avez-vous pas entendu dire tout haut, ou n'avez-vous pas entendu cette voix intérieure qui vous disait « Où est ton Dieu ?» Oui, n'est-ce pas? Et peut-être que vous avez crié vous-même dans votre propre désespoir « Où es-tu, mon Dieu ?» Jésus aussi, quand il était attaché à la croix, lui, l'innocent, condamné à mort, souffrant horriblement, et sous une terrible pression spirituelle, il les a entendus crier, ses ennemis. Il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Voyez Matthieu, chapitre 27, verset 43. Revenons au psaume 42, verset 11. Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent. Dans la tradition juive, les os sont parallèles à l'identité de quelqu'un. Les os forment la charpente qui maintient notre corps. Sans les os, nous ne serions qu'un tamou. Donc, ils sont l'image de notre identité. Et c'est une belle image. C'est peut-être pour cette raison que les os de Jésus n'ont pas été brisés quand il est attaché à la croix. Il n'a jamais perdu son identité, quoi qu'on y fasse. Ceci m'émeut. Jésus est toujours resté lui-même. Savoir rester soi-même, aussi quand on doit souffrir beaucoup. C'est un combat, mais c'est possible. Il arrive qu'on soit mis tellement sous pression spirituelle qu'on se demande comment on va survivre et en plus comment conserver son identité. Son identité divine surtout, celle que Jésus a obtenue pour nous. Le diable veut que nous perdions notre origine divine ou que nous arrêtions d'y croire. Le diable veut nous faire perdre le visage dans lequel Dieu se reconnaît lui-même, afin que nous ne reflétions plus la gloire de Dieu. Notre âme peut être tellement en exil, tellement spoliée de son identité, que l'on n'est plus ce que l'on est. Bien sûr, ceux qui nous aiment savent bien qui nous sommes. Mais notre âme est prisonnière, comme un oiseau en cage. On ne s'y sent pas bien, et on ne peut pas y déployer les ailes. Quand on perd son milieu naturel, sa patrie, on souffre. On connaît la nostalgie, et cela peut nous détruire. Le psalmiste dit dans le verset 5, « Je répandais mon âme au-dedans de moi. » Pourquoi ce poète s'épanche-t-il dans son propre cœur? Sans doute parce qu'il n'a personne d'autre à qui se confier. Il est donc obligé de s'en sortir tout seul. Et c'est très triste de ne pas avoir de frère ni de sœur à qui parler. Dans le psaume 37, verset 5, il y a ce texte archi-connu. « Remets ton sort à l'Éternel, et c'est lui qui agira. » Une autre traduction dit « Roule ta route vers l'Éternel, fie-toi à lui. » En anglais, cela se traduit par « Disclose thy way to the Lord », c'est-à-dire « Ouvre ta route au Seigneur et fie-toi à lui. » Cela suppose donc qu'il écoute. Mais si nous voulons le faire ensemble avec le Seigneur, nous pouvons encore être dans l'erreur. N'avons-nous pas des frères ou des sœurs? Qui parmi nous est digne de confiance, de telle sorte qu'on puisse lui confier un secret sans devoir craindre d'être mal jugé ou d'être condamné? Sommes-nous vraiment dignes de confiance? Quand on ose confier son âme à un frère, cela soulage. On respire à nouveau et on est déchargé d'un fardeau. Dieu a une oreille attentive, et nous aussi, si nous lui ressemblons. Nous serons alors des personnes de confiance. Et c'est comme si on est dans le désert et que quelqu'un vient à notre rencontre. Il nous donne la main et ensemble nous pouvons quitter le désert. Deux personnes dont le chemin se croise et qui marchent ensemble, comme cela est beau. De cette façon, nous guérirons. Lorsque nous nous confions nous-mêmes et que nous faisons confiance à quelqu'un, notre inquiétude disparaîtra et nous recevrons la guérison. Bien sûr, il arrive qu'on fasse des erreurs dans ceci, mais l'intention était bonne. Et alors, on voit bientôt que quelqu'un guérit intérieurement. Cela se voit. Le dernier verset de ce psaume, le verset 12, dit « Je célébrerai encore les saluts de ses faces, éternel. » Et c'est également ce qui se trouve dans le dernier verset du psaume suivant, le psaume 43. Cela peut aussi être le salut ou la délivrance de ma face. Car Dieu délivre notre face, notre identité. Nous pouvons laisser luire la lumière de Dieu sur notre caractère. Et Dieu nous racontera qui nous sommes réellement. Que pensez-vous de ceci? Dieu est notre Créateur et donc aussi notre réparateur ou notre restaurateur, car Dieu sait exactement ce qu'est un être humain. Nous ne perdrons pas la face, nous ne perdrons pas notre propre ego, notre âme, notre propre moi, qui nous sommes. Nous ne sommes plus en exil. C'est en tout cas ce que je vois chez plusieurs d'entre vous, et cela me donne consolation et quiétude. C'est dans notre relation avec le Père que cela se fera. Et c'est la nouvelle alliance que Jésus a établie. Une alliance renouvelée. Le nouveau pacte est une relation renouvelante. Toutes choses seront rétablies en nous. Jésus peut ainsi dire à son Père, tout en nous désignant, « Voyez, je rends toutes choses nouvelles. Je commence dans l'homme, car la séparation entre le bien et le mal commence dans la maison de Dieu, à l'intérieur de nous. » Voyez le texte de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Ceci signifie que nous allons devenir de beaux humains par la main de Dieu qui va nous faire apparaître. Et plus nous acquérons de l'identité propre, plus nous serons pleins de valeur. Et ainsi, Dieu paraîtra être véritable. Et c'est en hésitant et avec émotion que nous dirons « Je suis ». Car c'est ainsi que s'appelle notre Père. Amen. Prions. Osons croire que Dieu va nous mettre en lumière, qu'il va nous faire revenir de l'exil au travers des humains qui nous aiment. Et nous recevrons du repos et de la guérison pour nos âmes. Amen.